Karen Grass, eh bien, c'est une enfant de la troisième d'une fratrie de cinq.
Et puis, je peux dire que j'appartiens à ce qu'on appelle une famille chrétienne. Une famille dans laquelle on a été moulé dans la foi, moulé dans la prière. On va à la messe tous les dimanches parce que c'est comme ça. On prie à la maison parce que c'est comme ça. Et que Dieu n'est pas... Dieu, ça, il s'impose en fait à soi. Et voilà comment mon rapport à Dieu va commencer. On allait à la messe, c'était comme ça. Et ensuite, je suis née au Cameroun. On va arriver en France quand j'ai 6 ou 7 ans. Et maman va tomber gravement malade. Elle a une polyarthrite chronique et évolutive qui est fulgurante. Et au bout de moins d'une année, à l'hôpital Mondor, on considère que ce n'est pas la peine de la garder. Vaut mieux qu'elle reste chez elle avec de la morphine. Et puis voilà, que ça se termine gentiment autour des siens. Et à cette époque, mes parents, voilà, déjà vraiment remplis de Dieu, décident de se rendre à une prière pour les malades organisée avec le père Tardif, pour ceux qui connaissent. Et donc, à l'occasion de cette soirée de prière pour les malades, maman qui avait été transportée parce qu'elle ne marchait plus, maman qui avait été emmenée en voiture, vraiment totalement grabataire, va se lever. On va, le père Tardif parle d'une personne qui est venue, pas en espérant d'être guérie, mais juste pour avoir la force d'aller jusqu'au bout. Et cette personne, c'est maman. Et j'ai juste souvenir, moi j'ai 7-8 ans, et j'ai souvenir que nous n'étions pas allés, on était trop jeunes. J'ai juste souvenir que les parents rentrent vers 23h30 et que maman, elle marche. Maman, elle est debout. Maman est debout et elle va passer toute la nuit à chanter des chants de louange. Et j'ai pas tout compris. Je crois que j'ai toujours pas tout compris. plus de 30 ans après, j'ai toujours pas tout compris. Mais voilà un changement qui va bouleverser notre rapport à Dieu. Maman se rapproche des groupes charismatiques, de l'Emmanuel. Et on va commencer à aller régulièrement à Paray-le-Monial. À faire des sessions, des retraites. On part en retraite. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on vit en famille. Mes parents n'avaient pas trop les moyens pour aller au ski ou à la plage, mais on part en retraite. Et voilà comment, je crois, le Seigneur avait commencé son travail sur moi. N'en demeure pas moins que je me dis, nous, on prie tout le temps à la maison, on prie le matin, on prie le soir, on prie beaucoup. Et je suis pas sûre d'avoir choisi le Christ. Et à un moment donné, je suis en terminale, on fait de la philo pour le bac. Et là, je me dis, Seigneur, moi, aller à la messe tout le temps et tout, on fait les retraites, mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Si vraiment tu existes, moi, je veux que tu me fasses un signe. Parce que sinon, moi, je n'irai plus. Voilà cette requête totalement insensée que je fais au Seigneur. Alors que, je vous le dirai tout à l'heure, il avait déjà fait plein de signes. Mais vraiment, moi, je n'avais rien vu du tout. Et on va partir en pèlerinage avec ma paroisse. En pèlerinage, un groupe de 18-25 ans, on part dans le Sinaï. On part en Égypte, dans le Sinaï. Et voilà que vraiment, un jour comme ça, on lui dit temps libre. Et puis moi, je pars dans le désert, je me retrouve au milieu de nulle part. Et à un moment donné, j'ai vraiment l'impression d'un cœur à cœur. Alors, je ne peux pas vous dire, j'ai l'impression d'un cœur à cœur. Je me dis, mais je crois qu'on t'aime, ma cocotte. Je crois que tu es aimée. Tu n'es pas au courant, mais... Et voilà, c'est rétrospectivement que je peux mettre des mots. Et puis, je vais revenir d'Égypte. Puis tout d'un coup, je me dis, je commence à m'intéresser à lire des livres sur la foi. Je commence à regarder un petit peu. Je me mets à lire. Je commence à avoir faim de Dieu. Et je peux dire ça aujourd'hui. Il y a une soif. Je commence à avoir soif de Dieu. Alors, à côté de ça, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ben, vers 16 ans, de toute petite, je suis assise au fond de l'église et je regarde la personne qui fait chanter et je me dis, j'aimerais bien faire ce que fait la dame. Et j'ai souvenir comme ça, je la vois en train de diriger, puis moi je suis dans mon coin, toujours au fond. Et puis je me dis, c'est comme ça qu'on fait, c'est pas mal. Je m'entraîne. Et puis je me dis, mais je crois que je vais faire ça plus tard. Je vais être animatrice pour la messe. Alors, l'occasion va se réaliser rapidement. La personne qui anime la messe à l'aumônerie, elle se marie avec un Australien, elle quitte la France et elle cherche quelqu'un pour la remplacer. Savoir chanter n'est même pas une option, c'est juste qu'il faut quelqu'un pour la remplacer. Et ben moi je dis je veux bien quoi, je sais pas chanter mais je veux bien y aller. Voilà comment je vais commencer à animer la messe. Et puis mon curé me dit tu sais, ça serait bien de prendre peut-être quelques cours de chant pour chanter un peu mieux. Et de là, j'ai l'occasion de rentrer au conservatoire. Alors, le conservatoire, moi, je ne sais pas trop ce que c'est. J'arrive, j'ai choisi un chant à l'Esprit Saint. Je peux vous garantir qu'au conservatoire, on ne vient pas avec un chant à l'Esprit Saint. On vient avec du Mozart, on vient avec du Bach, mais on ne vient pas avec un chant à l'Esprit Saint. Et je m'aperçois tout de suite parce que je vois leur visage qui se décompose. Surtout la prof de chant, en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ça ? En se disant, mais voilà... s'est trompé de casting. Donc moi je chante mon truc hein. Et puis on me rappelle, le professeur de piano me rappelle et me dit écoutez, le prof de chant n'a pas du tout souhaité vous prendre, mais j'ai insisté, je crois qu'il y a quelque chose. Donc on vous laisse 6 mois à l'essai et puis si ça passe, voilà, on vous garde. Et voilà comment je suis rentrée au conservatoire et que j'ai commencé à faire à suivre des cours de chant. Et puis ça va avancer, ça va se passer plutôt bien. Je commence à animer des messes, je me sens à l'aise et des personnes vont marquer cet itinéraire dans la musique. Ça va être un jeune prêtre dans mon diocèse qui s'appelait le père Julien Vaudelaire, et il vient me voir en me disant Bérène, j'aimerais bien que tu chantes pour mon ordination. Alors, je lui dis il y a plein de gens qui savent faire. Moi, je ne pense pas du tout être à la hauteur. Et il me dit, non, mais je ne sais pas si tu sais faire. Je veux que ce soit toi. Je veux qu'on puisse voir quelqu'un de jeune qui sert le Seigneur. Alors, je chante à son ordination. Et en fait, le père Vaudelaire, il est mort l'année d'après. Il s'est fait renverser par un accident de voiture, renversé par un camion. Et 2 ans après... l'évêque de mon diocèse va décéder et on va me demander de venir chanter à ses obsèques. Ce jour-là, une personne qui anime, une organiste qui anime régulièrement des enterrements, me dit « Écoute, est-ce que ça te dirait de venir chanter pour les convois ?» Je lui dis « Écoute, pourquoi pas ?» Et voilà comment, après avoir commencé à animer la messe, je vais commencer à chanter à l'occasion des convois, pour des enterrements. Et étrangement, la première fois, je me suis dit, mince, il y a un cercueil, c'est un peu flippant ce truc-là. Et je ne peux pas vous dire. Et en fait, tout d'un coup, je me suis dit, je crois que tu es à ta place. Je comprends très vite que le Seigneur, il a besoin de ta voix pour accompagner les personnes qui franchissent ce passage. Et puis... quelque chose va me surprendre, c'est que les gens vont commencer à me dire « Ah, mais quand vous chantez, on ne me dit pas « t'as une jolie voix », on ne me dit pas « c'est beau », on me dit « Ah, quand vous chantez, ça nous touche, ça nous fait du bien au cœur ». Et pendant très longtemps, on m'a souvent dit « Ah, ça nous touche ». Et je me suis dit « Seigneur, si c'est ça, pourquoi pas ?» Et puis à côté de ça, ce rêve d'être chantre, on m'avait dit, écoute, chantre, c'est pas un métier, tu vas pas vivre de ça, donc laisse tomber. Hein, c'est... Ok, tu chantes, tu fais 2-3 convois, mais enfin bon, t'occupes pas, fais tes études. Et je fais mes études. Donc, je fais des études d'anglais, et puis je vais commencer à enseigner. Donc à un moment donné, je vais me retrouver chanteuse lyrique, parce qu'au conservatoire, c'est le chant lyrique. J'anime les messes, et je vais devenir prof d'anglais. Et tout ça pour vous dire qu'il va se passer un itinéraire que je n'ai pas du tout programmé. Il s'est passé... Moi, je rêvais de me marier très tôt, d'avoir des enfants. Ça fait que très tôt, j'apprenais à faire des recettes de cuisine pour être impeccable et tout. Et être efficace. Je me suis dit, mais Seigneur, moi, c'est ça que je voulais. Et moi, là, chanter à la messe, ok, d'accord, mais... Et il va se passer ce rapport avec le Seigneur où il y a conflit d'intérêts. Moi, Seigneur, je veux ça et toi, tu veux ça. Qu'est-ce qui se passe ? Et je vais comprendre que le Seigneur, il a un plan pour chacun de nous. Et je vais comprendre que ma mère me dise, Reine, le Seigneur, il a un plan pour toi. Le Seigneur a une route pour toi. Et cette route-là, tu as le choix de t'y opposer ou d'accueillir. Et je vais commencer à changer ma prière. Mes prières, c'était Seigneur, que j'ai mes examens. Seigneur, que j'ai une bonne note. Seigneur, que j'ai un petit copain. Seigneur, que j'ai du boulot. Seigneur, que ça se passe bien, machin. Et tout d'un coup, je vais commencer à changer mes prières en Seigneur, donne-moi le goût de ta volonté. Seigneur, fais-moi voir ta volonté. Seigneur, fais-moi choisir ta volonté. Seigneur, dirige-moi vers cette route que tu as fait pour moi. Et petit à petit, vraiment, petit à petit, je vais avoir ce sentiment que... Parce qu'au fond, je m'aperçois que je me sentais pas aimée de Dieu. Je m'étais dit, il m'a pas donné ce que je voulais, donc c'est qu'il m'aime pas. Et alors que c'était pas ça du tout. Et cette image de ne pas être aimée de Dieu, c'est quelque chose que j'avais ressenti quand j'étais toute petite. Quand on est arrivé en France, et un jour j'étais allée au caté, et un camarade m'avait dit, mais de toute façon, toi, t'es noire parce que t'es sale, donc Dieu, il t'aime pas. Et en fait, j'avais absorbé l'info. Ça, je l'ai absorbé, alors tout de suite. Je l'ai absorbé, cette info. Et c'est que... Et je m'étais dit, bah voilà, tu vois, toi, tu veux te marier, tu te maries pas. Tu veux si t'as pas. Il me disait, non, il t'aime pas. Hein. Voilà, c'est foutu pour toi. Et le Seigneur a vraiment... Voilà, petit à petit, le Seigneur a vraiment fait un travail de guérison sur moi. Et un jour aussi, un autre événement qui va me marquer, on est parti en famille, en pèlerinage à Medjugorje. Alors, je sais que c'est... C'est un pèlerinage privé, on va dire. Voilà un pèlerinage où j'étais allée. Et vous savez, le genre de pèlerinage où on y va en famille. Donc, on va prier. Il y a le chapelet dans le bus. Moi, je me dis, j'y vais. Mais enfin, bon, moi, les trucs de mari comme ça, c'est pas mon trip, quoi. Moi, je me dis, j'y vais, mais tranquille. Hein. Seigneur, je veux pas te voir. Je veux rien du tout. Je veux pas d'apparition. Et alors... on a un temps de prière avec des voyants. Moi, j'y vais, mais alors vraiment en me disant, bon, dans trois quarts d'heure, on va se boire un café, ça va être sympa. Et voilà que je me retrouve là et que je ne peux pas expliquer. Des larmes se mettent à couler, un geyser de larmes. Mais un geyser de larmes se met à couler et je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Moi, j'étais partie en pélé un peu... sans rien, sans aucune pensée. Et voilà que mon mari est venu me chercher totalement, qui est venu me prendre dans ses bras. Je ne peux toujours pas expliquer aujourd'hui. C'est quelque chose qui s'est passé il y a 15 ans et je n'ai toujours pas compris. Je ne suis même pas sûre d'avoir compris. Mais je crois que je me suis sentie aimée. Et puis, voilà ce chemin qui continue, ce chemin de vie qui continue. Il y a l'enseignement, alors j'enseigne parce que au départ c'était parce que j'ai pas de sous, quoi. C'est parce que faut que je bouffe et que en chanter ça me paye pas beaucoup. Et puis un jour quelqu'un me dit, tu sais, si t'enseignes juste pour manger, tu crois que c'est le plan de Dieu sur toi? Je lui dis, bah je sais pas, moi il faut que je paye mes factures. Donc et quelqu'un m'a dit, mais si vraiment tu vis parce qu'il faut payer tes factures, je crois que tu n'as pas du tout compris le plan de Dieu. Aïe. Alors, c'est vraiment drôle. Alors moi, j'enseigne l'anglais, moi je ne travaille que dans des établissements très difficiles. On ne m'envoie que, je suis remplaçante, on ne m'envoie que là où ça se passe extrêmement mal. Donc je suis en rapport avec des élèves très difficiles, avec des histoires de vie très violentes. Et vraiment un jour dans la prière, le Seigneur me dit, tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là par hasard. J'ai besoin de toi au milieu de ces enfants-là. Je me dis, moi je suis prof d'anglais, je ne sais pas trop comment on va faire ça. Et vous voyez, un boulot que j'ai pris au départ parce que je voulais juste avoir de quoi payer mes factures va se révéler une mission, ce que moi je lis aujourd'hui comme une mission, où en fait, je crois que la Vierge m'a envoyée juste pour donner de l'espoir, pour aider en fait des, bah, justement des gens pour qui on décide que, bah, vu de là où vous venez, vous ne ferez jamais rien. Des gens qu'on a très tôt, parce que je suis au collège, donc ils ont entre 11 et 14 ans. Des enfants qui, déjà, dès l'âge de 11 ans, savent que de toute façon, pour eux, il n'y a rien. Il n'y a pas d'espoir. Ça sera que la galère tout le temps. Et de tout d'un coup me dire que le Seigneur t'a peut-être envoyé là pour leur dire que oui, le monde et les gens disent que pour vous, c'est foutu, mais pour moi qui ai un plan sur chacun d'entre vous, non. Vous n'êtes pas là par hasard et j'ai un chemin de vie pour chacun d'entre vous. Et voilà comment ce métier d'enseignante s'est révélé être un métier qui m'a convertie moi-même. Parce qu'au bout d'un moment, on dit des choses aux gens et étrangement, on ne se les applique pas à soi-même. Et voilà comment une part de ma vie se vit et par l'enseignement. Et je suis toujours surprise de la capacité que le Seigneur a de me transformer. À chaque fois qu'un enfant réussit quelque chose, j'ai l'impression que c'est moi. En fait, c'est pas l'enfant, c'est moi qui suis transformée. Et je rends grâce au Seigneur pour... Au départ, moi, je voulais enseigner dans des... Enfin, quitte à gagner de l'argent, ça aurait été bien d'être dans un collège avec des enfants gentils, qui ne bronchent pas trop. Et finalement, je dis, Seigneur, ben merci pour ces bras cassés. Je suis ravie de voir le travail que tu peux faire à travers eux pour moi et à travers moi pour eux. Donc, voilà un pan de ma vie. L'autre chose qui s'est passée, ça s'est passé il y a 3 ans. J'ai eu l'occasion de passer l'examen pour être chantre. Alors c'était très drôle parce que, on m'avait dit, c'est mort, tu vas pas être chantre. Donc je me présente à l'examen pour être chantre. J'avoue que j'y vais confiante. Je me dis, ça fait quand même 20 ans que tu chantes. Si t'as pas l'examen, ça serait compliqué. J'y vais et j'ai pas l'examen. Qui, moi? Moi qui chante depuis 20 ans dans toutes les églises de Paris, moi j'ai pas l'examen. Et j'aime quand le Seigneur vient travailler sur mon orgueil très mal placé. Je dis merci Seigneur, tu m'as... Good, good. Et je me dis, si c'est comme ça, je ne repasse pas l'examen. Franchement, mon orgueil bien blessé est rempli de lui-même. Décide que je ne repasse pas l'examen. Et puis, 2 ans plus tard, quelqu'un me dit « Mais t'as pas passé ta carte professionnelle pour être chanteur ?» Non, non, ça m'intéresse pas, tu sais, franchement, j'ai pas besoin. « Oh, tu sais, je te dis ça parce qu'en fait, ils refont l'examen, donc puisque ça t'intéresse pas, t'as qu'à y aller, t'as rien à perdre. » Donc, je repasse l'examen en disant « Seigneur, c'est ton truc, hein, je le passe, c'est bien, je le passe pas, c'est ton plan, moi, je... » Et finalement, et l'examen se passe bien et j'ai mon examen. Et c'est très surprenant parce que c'est pratiquement le même jury. Et un jour, le père qui était dans le jury, il me dit « Je ne sais pas pourquoi on ne vous l'a pas donné la première fois, c'est vrai que c'était très bien. » Et je lui ai dit « Parce que j'en avais besoin de ne pas l'avoir la première fois. » Mon ego avait besoin que je ne l'ai pas la première fois. Et je rends grâce au Seigneur pour ça. Je rends grâce au Seigneur pour me faire comprendre. Vous voyez, je priais parce que je voulais que tout aille bien. Je priais pour avoir ce que je voulais. Je priais pour pas avoir de soucis. Parce que je me disais, la vie n'a pas été facile. Et tout d'un coup, vous voyez, vous comprenez que le chemin d'amour de Dieu... Il se construit et qu'il est tout aussi riche avec les épreuves comme avec les grâces. Et sur cet itinéraire qui a été le mien, beaucoup de gens ne m'ont pas aidé, mais vraiment pas aidé du tout. Beaucoup de gens ont même mis des bâtons sur ma route. Et en fait, c'est bien. Si c'était le sentiment, c'est bien comme ça parce que. J'avais pas compris que, au-delà de faire grandir un talent, il fallait faire grandir une âme pour pouvoir mieux servir le Seigneur. Et je suis contente, oui. J'ai la force de dire aujourd'hui que je suis contente pour un itinéraire qui est très, finalement, très, très complexe, pas simple du tout, pas facile. Mais c'était la volonté du Seigneur. Et aujourd'hui, vous voyez, je suis chantre. Le hasard a fait que je suis chantre à la rue du Bac. Alors la rue du Bac, la médaille miraculeuse, c'est une chapelle où on allait tout petit. Et à la rue du Bac, on est cinq, car j'ai souvenir, on allait à la messe, et puis à la fin de la messe, il y avait mon père, tac, 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 ma mère, qui fermait le truc, et on allait prier tout le temps. Et vous voyez, quand j'ai fait la première messe à la rue du Bac, je suis arrivée et j'ai regardé la Vierge. Et je me suis dit, alors comme ça, tu m'attendais depuis si longtemps. Alors comme ça, tu m'avais réservé cette place, t'attendais juste que je sois prête. Parce que finalement, c'est ça que je comprends, vous voyez. C'est que, Seigneur, franchement, depuis le temps que je te demande telle ou telle chose. Et puis le Seigneur vous donne parfois la grâce de vous faire sentir que, mais je t'attendais, c'est toi qui n'étais pas prête. Et je revis encore cette première messe et je vois la Vierge tout au long de la messe, voyez, venez au pied de cet autel, les grâces seront répandues. Et je me dis, oh Seigneur, c'est donc ça d'être aimé de toi. Et voilà, bon, vous voyez, je suis chantre. Je suis à la rue du Bac où quand mes parents ont eu des problèmes financiers, quand on a failli être expulsé, quand on a failli perdre tellement de choses et ma mère, elle disait, on va prier, rue du Bac. Ou alors on allait à Montmartre. On allait à Montmartre, mes parents étaient adorateurs et on passait nos nuits à Montmartre. Quand les fins de mois étaient vraiment difficiles, vous voyez. Et je me dis, et voilà qu'aujourd'hui tu es chantre. Et depuis cette année, je suis formateur pour les chantres pour le diocèse de Paris. Et je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est incroyable. Et vous voyez, la vérité, c'est que tout était donné. La vérité, c'est que tout était reçu. Mais je me sens comme, voilà. Vous voyez, le frère aîné, il dit, mais moi, je suis resté. Et le Seigneur, et son père lui dit, mais tout ce qui est à moi est à toi. Mais tout ce qui est à moi est à toi. Mais il n'a jamais compris. Je n'ai jamais compris. Je me suis dit, voilà. Je regardais toujours les autres. Ah, mais oui, mais elle a ça, puis lui, il a eu ça, puis... Et il n'a jamais vu le cadeau immense du Père. Et je me sens dans cette situation aujourd'hui où, eh bien, le Seigneur voulait absolument que je puisse lui dire, Seigneur, ce que j'ai aujourd'hui, c'est pas les hommes qui me l'ont donné, c'est toi qui me l'as donné. Parce que les hommes m'avaient dit que ça serait pas possible. Parce que les hommes ont pensé que non, c'est pas un métier. Non, tu ne peux pas faire ça. Et toi, tu n'avais pas dit ton dernier mot. Le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot pour moi. Et voilà comment... voilà où j'en suis aujourd'hui. Et vous voyez, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que je sens que... C'est comme pour chacun d'entre nous, le Seigneur continue à travailler. Mon mystère préféré dans le chapelet, dans le mystère lumineux, c'est la transfiguration. Et quand on commence à comprendre que chaque jour, le Seigneur nous transfigure, rendez-vous compte ? Chaque jour, je suis transfigurée avec mes erreurs, avec mes chutes, avec mon péché, avec ma misère, je suis transfigurée et je me dis, voilà, j'en suis déjà là et je rends grâce. Et je te dis, Seigneur, merci encore pour toutes les choses que tu veux pour moi. Et ce n'est pas pour moi parce que je vais prendre mon miroir et me regarder. Parce que finalement, les grâces du Seigneur ne prennent de la valeur que quand elles sont mises au service de l'autre. Les grâces du Seigneur ne prennent leur valeur que quand elles sont mises au service des autres. Si Gabriel chante dans son coin, dans sa salle de bain, ben, c'est dommage. Si Gabriel chante et vient enrichir la célébration... Est-ce que c'est pas mieux ? Et on a tous, voyez, on a tous ces étapes de fragilité, ces moments où on se dit, oh Seigneur, c'est pas ce que je voulais, ça ressemble pas à ce que je voulais. Mais souvent, on est dans ces... Moi, je suis dans ces états-là parce que j'ai ma volonté à moi. Moi, j'ai mes plans. Et que quand mes plans ne correspondent pas avec celui de l'Esprit Saint, je suis un peu contrariée. Alors, ma vie d'aujourd'hui, je suis chantre. Et je me dis, Seigneur, si demain je ne suis plus chantre, Eh bien, c'est toi qui décides. Si demain, je n'enseigne plus, c'est toi qui décides. Tu sais que moi, je ne suis pas très courageuse, alors quel que soit ton plan, donne-moi juste la force et le courage de l'accueillir. Je n'ai rien d'acquis. Je n'ai rien. Je suis contente de me dire que je peux peut-être tout perdre. Ça ne sera pas rigolo. Mais j'ai ma foi. Mes parents nous ont dit, on n'a rien à vous léguer. Quand on partira, on n'aura rien. Il n'y a pas de compte en banque, il n'y a pas de compte d'épargne. On est des amis. Ma mère nous a toujours dit, la seule chose qu'on vous lègue, c'est la foi. Et si vous avez la foi, vous avez tout. Voilà. C'est quelque chose, moi je me disais, moi j'ai des copines, leurs parents et tout, ils ont une maison à la campagne, ils ont des trucs, nous comme par hasard, on n'aura rien. Et oui, c'est ça aussi, c'est le frère aîné, moi. Et je rends grâce au Seigneur de me faire comprendre, voilà, de me faire comprendre que si tu as Dieu, tu as tout. Si tu as Dieu, tu as tout. Alors, en même temps, vous voyez, j'ai été très marquée par le témoignage. Qui avait témoigné avant toi ? Qui était venu témoigner ? Joseph. Vous voyez, moi qui vais à la messe tout le temps, qui suis chrétienne, je me dis, oui, moi je suis fascinée quand quelqu'un se convertit. Les convertis, je les regarde en me disant, oh Seigneur, dis donc, c'est chouette, il me faut envie. C'est des gens qui ont bravé le rejet, qui ont bravé la mort, qui ont bravé tellement de choses pour suivre le Christ. Et je les regarde et c'est pour ça que quand on s'est rencontré avec Eden, son témoignage, moi, m'avait... J'ai souvenir, on était avec Gabriel, on fait l'émission et je t'écoute parler et je prends une claque. Je prends une claque et je me dis, c'est super Seigneur, qu'est-ce que c'est fou. Qu'est-ce que c'est fou ce que tu peux faire dans nos vies. Alors je me dis, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et je ne sais pas pour vous, mais je crois que c'est une des choses les plus dures à dire si on y pense. Que ta volonté, Seigneur, soit faite sur ma vie. Parce que pour témoigner du Christ, il faut faire beaucoup de choix, ils ne sont pas faciles. Et c'est ce que, en parlant avec toi, voilà, Eden, je me suis dit, oh, Seigneur, c'est une aventure qui est extraordinaire. Et puis tant qu'on a la foi, ça marche. Alors moi, la foi, je ne sais pas pour vous, un de mes secrets, c'est la prière du chapelet le matin. Qu'est-ce que ça m'a saoulé quand j'étais jeune? Parce que chez nous, c'est le rosaire. Hein. Quand j'étais petite, c'était le rosaire. Pendant le carême, réveil à 5h du matin, un rosaire. C'était le menu. Et puis, on pouvait ronfler pendant deux mystères. Mais enfin, c'était quand même le rosaire. Mais aujourd'hui, plus grande, c'est fou de méditer le rosaire avant de poser le pied par terre, avant de sortir de chez moi, de me dire, Seigneur, quoi qu'il advienne de bien, ou de difficile ou de douloureux, je veux tout vivre avec toi. Et ben moi ça me change, moi ça m'a totalement changé la vie. Alors quand j'ai commencé à faire des concerts, moi je fais des concerts spirituels, moi je suis très bavarde, et les concerts spirituels en général je chante, et puis si c'est sur le temps du carême, je peux dérouler un petit peu un concert médité. Et moi les concerts je prépare chez moi, c'est bien travaillé et tout, et puis je me suis aperçue souvent qu'à j'arrivais sur scène, enfin sur scène, j'arrivais... pour le concert, et tout d'un coup, eh ben c'est plus moi qui, c'est pas ce que j'avais prévu de dire. En fait, je me dis, mais j'avais prévu de dire ça, je me vois en train de dire des choses, et je me dis, j'avais pas prévu de dire ça. Mais c'est que parfois, quand on se met comme ça en disant, viens Esprit Saint, viens prendre possession de moi, on se retrouve à dire des trucs qu'on n'avait même pas prévus. Et les gens nous disent, dis donc, vous avez dit ça tout à l'heure, et je leur dis, je ne peux pas vous dire, c'était pas prévu, je ne me rappelle plus. Je ne peux pas vous dire, c'était pas prévu, je ne me rappelle plus. Je chante les chants que j'ai prévus. Ça m'arrivait parfois de dire, écoutez, j'avais prévu de chanter ça, mais depuis qu'on est ensemble, il y a un chant qui me vient à l'esprit, c'était pas prévu, mais je vais chanter ça, c'est pas sur le programme, je m'excuse, mais ça s'impose à moi. Et une série de j'appelle, moi c'est pas des concerts, j'aime pas le mot concert, je me sens pas trop concernée, j'appelle ça plutôt des temps de partage, des temps de partage musicaux en fait. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec une association qui accompagnait les familles en deuil. Parce que je crois que le Seigneur m'appelle beaucoup à accompagner voilà, les gens dans le deuil. Et j'ai souvenir comme ça de programmes où vous avez prévu un truc. Et vous arrivez, vous regardez les gens, parce que je regarde les gens, vous regardez les gens, et vous leur dites... on ne va pas faire ce que j'ai prévu. Il se passe autre chose maintenant. Il se passe quelque chose d'autre et je vais me laisser guider avec vous par l'esprit. Et vous voyez, quand on se laisse guider comme ça par l'esprit, ben parfois vous sortez de chez vous. Moi je suis enseignante. Parfois je me dis tiens, j'ai prévu mon cours. Et parfois ben, je vois mes élèves et je me dis on va pas faire ce que j'ai prévu. Alors c'est compliqué parce que ben vaut mieux prévoir avec des enfants. Hein. Mais parfois, c'est que parfois, quand on se laisse porter par l'esprit, on se retrouve à faire des trucs qu'on n'avait pas prévus. Je sais, ça doit vous arriver à vous aussi, où j'ai des fois où ma mère est très généreuse. Ma mère est très généreuse et c'est quelqu'un qui donne tout le temps. Dès qu'elle voit quelqu'un dans le besoin, si elle n'a pas d'argent, elle va tirer l'argent à la banque pour aller en donner. Ou alors, elle va nous demander de l'argent. T'as pas 20 euros ? Alors, je dis, si. Mais elle me dit, s'il te plaît, vraiment, j'ai besoin. Et puis, on la voit plus tard en train de donner à quelqu'un. Et une fois, j'avais de l'argent sur moi. Donc, je sors. Et puis, cette personne demande. Je me dis, mais moi, j'avais prévu mes thunes et tout. J'étais pour acheter mon truc. J'aurais bien donné. Mais enfin, là, sur le coup, j'avais prévu de faire un truc avec. Et puis, tout d'un coup, il y a un truc qui vous gratte. Et il y a un truc qui fait... Et tu te dis, Seigneur, que ta volonté soit faite, et quelque chose s'impose à vous. Mais vraiment, et là, tout d'un coup, je vois ma main qui fait ça, et je me dis, mais... qui est en train de s'occuper du truc ? Et je me vois faire ce geste, et j'entends dans mon cœur, merci. Merci. Et je me dis, merci Seigneur pour... ce travail de transfiguration en permanence, parce que vous voyez, parfois on se dit, moi j'étais à la messe, moi j'ai fait mes prières, c'est bon, j'ai fait ce qu'il faut. Oh, j'ai donné un petit truc, c'est bon, j'ai fait ce qu'il faut. Et le Seigneur, il me dit, je te demande pas de faire ce qu'il faut, je te demande de te laisser guider par moi, c'est pas pareil. C'est pas faire ce qu'il faut, tu fais pas ce que tu dois te laisser guider par moi. Et c'est fou comment, voilà, je m'aperçois de mettre la prière. Alors le chapelet, on a tous peut-être nos penchants. Marie, j'aime me sentir enveloppée par le manteau de Marie, et ça fait que parfois je peux sortir en me disant voilà, je suis couverte, ça va bien se passer. Et parfois quand ça se passe pas bien, je me vois en train de toujours chanter bien esprit de sainteté, bien esprit de lumière. Et je vois comment, dans plein de situations comme ça, d'être toujours porté par le Christ. J'ai vu mes parents ce week-end, ils sont venus. On a passé on a dîné avec maman. Et puis après le repas, on allait tous partir. Ma mère qui nous dit, bon, un temps de prière, on rend grâce à Dieu. Je dis, ça c'est ma mère. On passe un bon moment, on est content, et tout de suite, on rend grâce à Dieu. Et on s'est séparés avec des chants de louange et en priant le Seigneur. Et je me dis, oh Seigneur, merci. Si, voilà. Que ce soit toujours ça que je garde dans mon cœur. Alors vous voyez, c'est très drôle parce que je me retrouve ici, c'est dans cette maison à Déniat. Et ce sont les assomptionnistes. Et quand j'étais plus jeune, j'avais rencontré vraiment. Je voulais être religieuse parce que maman voulait être religieuse. Alors je me suis dit, moi aussi. Et mes parents, qui étaient avocats, avaient un cabinet d'avocats juste à côté. Du noviciat des assomptionnistes, des sœurs. Et donc, on allait à la messe tous les jours à 12h15. Et donc, j'avais rencontré l'Assomption par ce biais-là. Et à l'époque, il y avait une sorte de camp de jeunes. On partait à New York. On allait servir les sans-abri à New York. Et voilà comment je me suis retrouvée à New York. J'avais 26 ans, ouais. Et je suis pensée... On est parti à New York et en fait, c'était les ascensionnistes qui organisaient ce voyage. Et quand je me suis retrouvée ici, quand je suis venue ici et que j'ai vu Advenia, tu me dis, ah non, c'est pas vrai, je retrouve les ascensionnistes. Et c'est super, je trouve ça extrêmement, vraiment, c'est génial. Et je vois, vous voyez, quand, plus on est dans la prière et plus on arrive à lire les signes. Parce que quelque chose qui savent finalement, quand tout est reçu, c'est quoi la problématique pour moi? C'est que la plupart du temps, c'est que j'y vois rien, moi. J'y vois rien, je vois ce que j'ai envie de voir, mais parfois ce que j'ai envie de voir, c'est pas ce que le Seigneur a envie de me montrer. Et que j'ai besoin de la prière pour pouvoir recevoir la vision de la foi, la rencontre par la foi. Quand on chante comme moi, j'ai des souvenirs de concerts où je vois tout le monde, je vois juste quelqu'un qui tire la tête. Et je me dis, oh mince, c'est nul, oh, c'est pas bon, je crois que je suis en train de me planter, ça plaît pas du tout, c'est pas bon. Et j'ai souvenir comme ça, dernièrement, j'ai fait un concert et qu'il y avait quelqu'un, mais elle a tiré la tronche tout le concert. Et elle me dit, mais parce que tu crois que t'es venue pour elle? Je dis, je sais pas, mais enfin. Et elle m'a dit, maman, parfois tu chanteras dans des endroits, mais tu n'es venue que pour une seule personne, sache-le. Tu peux avoir 100 personnes autour de toi, tu n'es venue que pour une personne. Et c'est la seule chose qui importe. T'es pas là pour que tout le monde soit content, parfois t'es... Dieu a besoin de ne parler qu'à une personne. Ça suffira largement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a apaisée quand j'ai commencé à chanter. On veut plaire, vous voyez, c'est humain. Et le Seigneur, je t'ai dit, mais moi, je ne t'ai pas appelé pour ça. C'est pas du tout ce que je te demande. Je te demande de me servir. Après, au niveau du service, c'est moi qui décide. C'est pas toi. Et j'aime ça. J'aime de me dire... je peux me retrouver dans des assemblées où on est juste 3 ou 4 et je me dis, vous savez quoi? Eh ben, c'est le Seigneur qui nous a choisis pour qu'on soit ensemble aujourd'hui. Et ça suffit largement. Il n'y a pas de hasard. J'avais besoin, moi, de savoir qu'il n'y a pas de hasard. Et de me dire, où que tu sois, dès lors que tu as commencé ta journée avec moi, tu es au bon endroit. Aussi simple que ça. Donc voilà, vous voyez, j'ai commencé en vous disant que je ne savais pas trop. Je ne me sentais pas forcément légitime de venir vous parler, mais si le Seigneur voulait que je sois là, eh bien, ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. J'espère juste que ça puisse servir et que de toute façon, ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est comme les graines qu'on plante. Il y a ce qui pousse très vite et puis il y a ce qui pousse très lentement. Et parfois, ce qui prend beaucoup de temps à pousser, ça donne de très, très beaux fruits. Et ça, c'est un motif d'action de grâce. Voilà. Alors, pour terminer, je vais vous chanter un chant qu'on me demande toujours. C'est un chant qui, d'ailleurs, commençait vraiment à m'énerver. Et vous voyez, c'est toujours ça, le truc. C'est qu'il y a la vision humaine et la vision divine. Alors, ça s'appelle le regard de Jésus. Le regard de Jésus, dont parlait Eden tout à l'heure. Ce sont ces personnages qui ont croisé le regard de Jésus. Et vous voyez, quand vous ne direz pas le contraire, hein, quand on croise le regard de Jésus, il y a quelque chose qui change. Ça bouge. Il y a quelque chose qui bouge. Ça ne change pas comme ça, mais ça bouge. Il se passe des choses. Et ce regard de Jésus, vous voyez, c'est comme quand on prie parce qu'on veut quelque chose. On dit, oh, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, aide-moi. Et la question, elle n'est pas là. La question, c'est, Seigneur, si tu veux que je traverse ce moment difficile, alors donne-moi la force de traverser. Si tu veux que je passe par là, parce qu'il n'y a pas de hasard, alors donne-moi la grâce de traverser. Mon histoire de vie, c'est, je vous disais, à un moment donné, mes parents étaient en France, avec 5 enfants, c'est très, très difficile. Et j'ai des souvenirs comme ça, où mes parents... n'arrivait plus à payer le loyer et qu'il y avait des lettres d'huissier et que c'était, mon Dieu, mais je ne vais même pas aller à l'école lundi parce qu'on va se faire expulser de la maison. Et il y a ces moments où, et c'est resté, hein, des moments où vous dites, quelqu'un frappe à la porte et c'est l'huissier, quoi. L'huissier qui vient, il rentre chez vous et puis il note un peu, il y a ça. Et vous dites, on va se faire expulser, on va tout perdre. Et je... Et j'ai, la seule chose que je garde en mémoire, c'est mes parents en train de prier, quoi. Parce que moi, je me disais, mais ça va être la honte et tout, j'irai pas au collège, ça va se passer, on va être dans la rue. Et j'ai souvenir de ma mère qui sortait systématiquement son chapelet. Juste pour me rappeler que je te promets pas un chemin, l'autoroute, hein, mais de me dire que le Seigneur, donne-moi la grâce d'embrasser ta volonté et que voilà, les gens qu'on côtoie, ces gens dans la rue, les gens malades, c'est que on a juste vocation, on a tous une vocation, et que cette vocation ne prend sens que quand elle est mise en action au service de ceux qui ont besoin, les plus faibles. J'ai adoré venir servir à Ozanam. C'était chouette, c'était rigolo. J'ai chanté un petit peu. Et c'est fou le bonheur que ça procure de rendre service aux autres. Le bonheur de tendre un café et quelqu'un le prend et vous dites, voilà, je suis contente de vous servir. Et je me dis, le chemin du Seigneur, c'est ça. Et qu'à chaque fois que je veux... J'ai donné un jour de l'argent à une jeune fille dans le métro, et je lui ai dit, j'espère que quand ça sera mon tour, j'espère que je pourrai tomber sur vous et que c'est vous qui m'aiderez. Parce que ça pourra m'arriver aussi. Je lui ai juste dit, j'espère que la prochaine... Si c'est un jour ça m'arrive, j'espère tomber sur quelqu'un comme vous et j'espère que c'est vous qui m'aiderez ce coup-ci. Aussi simple que ça. Juste avoir la grâce pour ces moments... La foi, c'est la grâce aussi pour ces moments où ça ne va pas être simple. Mais étrangement, ce sont étrangement ces moments qui nous font grandir. C'est ça le problème. Ce sont ces moments qui nous font grandir. Alors, je vais vous chanter ce chant, Le regard de Jésus. On était deux amis, Jean et puis moi, André. C'était 4h du soir du mois de février. On suivait en curieux Jésus qui s'en allait. Quand il s'est retourné, qu'il nous a parlé, il y avait dans ses yeux tellement d'amitié. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, non. Je ne l'oublierai jamais. On était si heureux, on va chercher mon frère à qui Jésus a dit, toi tu t'appelleras Pierre. Après il y a eu Philippe et puis Nathanaël. Quelques mots mais surtout le véritable appel. Il était dans ses yeux qui semblait dire venez. Comme d'habitude, j'allais à la fontaine. Vous savez mon histoire, moi la Samaritaine. J'étais la fille blasée qui traînait un cœur lourd de n'avoir pas trouvé le fameux grand amour. C'était comme une eau fraîche quand il m'a regardé. J'étais fonctionnaire, je m'appelle Mathieu. Un métier bien payé qui donne quand on est vieux. La bonne petite retraite pour faire son petit jardin. J'ai oublié tout ça quand Jésus m'a dit viens. Quand il m'a regardé, il a tout chamboulé. Je ne l'oublierai jamais.
fermer les yeux comme une bête apeurée. Pour un moment de faiblesse, j'allais être tuée. Mais quand ils sont partis, tout penaud et confus, et que Jésus m'a dit, va et ne pêche plus, ses yeux étaient remplis de tellement de bonté. J'ai dit à Jésus que les commandements, je les applique tous comme un bon pratiquant. Mais laissez mes richesses et les distribuer. Je n'ai pas pu le faire, mais je ne peux oublier que ce regard avait comme un goût de liberté.
C'est une confirmation qu'elle vient de faire, parce qu'une fois, elle a dit, quand elle est arrivée, elle disait, oh là là, cette chapelle, qu'est-ce qui fait bon dans cette petite chapelle. Mais aujourd'hui, d'habitude, pour faire la dizaine, je chante le dernier Je vous salue Marie. Et depuis la maison, quelque chose me donnait la joie au cœur, je ne comprenais pas. Et puis, j'ai reçu chez nous, soyez reine. Et à un moment donné, je dis, mais celle qui vient pour témoigner, elle s'appelle Reine Grâce. Et au moment où on a fait le dizaine à la fin, j'ai reçu dans mon cœur, tu es chez toi ici. Et on a chanté, chez nous, soyez reine. Et je me rappelle qu'avec les messagères de l'amour, la maman du ciel a donné comme message que ce chant, quand on chante, c'est la grâce qui tombe en nous. Donc tu es chez toi. C'est
merci.
Ce que je peux dire. C'est venu comme ça, hein. Je n'ai pas préparé ni rien. Et on a chanté. Tu n'étais pas là.
Dieu gracias.
Et là, tu viens de dire comment chez les assomptionnistes, comment une confirmation pour moi.
Une autre question. On va passer à la messe. Tout à l'heure. Ce qui me touche, c'est avant, je cherchais quelque chose de ciel, vous voyez, le miracle, la vision, des choses extraordinaires qui ne se passent pas normalement dans la vie quotidienne, dans la foi. Mais maintenant, j'ai abandonné ça. Je vois que tout ce qui se passe sur terre est aussi autant extraordinaire. Il y a, une fois qu'on a la foi, vraiment ce qui se passe, toutes les petites choses qu'on fait dans la vie quotidienne, toutes les choses simples, y a une telle profondeur là-dedans, et il y a toujours une grâce du Seigneur là-dedans, il y a la volonté du Seigneur là-dedans, et ça c'est extraordinaire. Mmh. Je trouve une merveille, une autre beauté de la vie que je ne voyais pas avant. Donc maintenant je ne cherche plus la vision du ciel, mais ce qui est proche de moi, ce qui est sur terre et ce qui est dans ma vie d'aujourd'hui. Alors c'est un peu ça, je pense que la foi peut s'épanouir. Ouais. Ouais. Bon, si vous n'avez pas une autre question.
C'est juste une remarque, je voulais vous remercier. En fait, vous êtes venu très modeste en disant « j'ai pas grand-chose à dire » ou peut-être qu'il y a des gens qui font mieux que moi. Mais je trouve que vous faites très bien et ça n'est sans doute qu'un début.
À la grâce de Dieu.
Parce que franchement, on s'ennuie pas une seconde et ça nous réchauffe le cœur. Voilà, donc moi je peux vous encourager à poursuivre vos témoignages.
C'est la première fois.
Et pas la dernière, je l'espère.
Moi aussi, donc, j'ai beaucoup apprécié ton témoignage, merci beaucoup. Et je me demandais en quoi ça consistait être chantre dans l'église, enfin, et l'examen, qu'est-ce que ça permet? J'aimerais en savoir un peu plus sur tout ça.
On va parler, ça c'est administratif en fait, c'est juste que pour chanter dans une paroisse, il y a les organistes, et un organiste titulaire, il passe un examen qui fait qu'il peut être employé pour être organiste et rémunéré, et que pour chanter dans les églises, il y a des bénévoles bien sûr, mais en fait, chantre c'est un métier, on passe un examen où on doit déchiffrer de la musique, où on doit chanter et savoir, enfin montrer qu'on est capable d'animer pour une assemblée. Voilà.
Mais tu es toujours professeur d'anglais aussi ?
Oui, j'ai une vie très chargée.
Bon, je pense qu'il faut préparer la messe maintenant. Donc, on termine avec notre Père. Notre Père, le Fils, le Saint-Esprit. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.